Le journal c'est vous, Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. C'était un projet à plus de 3 milliards d'euros, 430 000 mètres carrés qui devait sortir de terre d'ici 8 ans dans le Val d'Oise. L'Élysée dit stop à Europa City, ce complexe dénoncé par les associations écologistes et les commerçants. Un projet plus mixte et plus moderne est mis à l'étude. De nouveau de la friture au sein du gouvernement, cette fois sur les retraites. Jean-Paul Delevoye opposé à la clause du grand-père, alors que Matignon ne ferme pas la porte, nous verrons cela. Au sommaire également ce soir, cette usine de Total, transformée en prison au Yémen. Un ancêtre qui savait marcher, vieux de 11 millions d'années. Les premiers voiliers de la Transat Jacques Vabre attendus la nuit prochaine au Brésil, nous y serons. Et au téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien, on parle de harcèlement scolaire ce soir, en cette journée nationale, pour savoir déceler le harcèlement. Lutter contre le harcèlement, ça concerne un élève sur 10. Ce sont des brimades tout le temps, des garçons qui osent plus aller à la cantine, des filles qui sont jugées, moquées, brimées. À la clé des troubles, des dépressions, parfois pires. Comment déceler donc ces signes? Prévenir, empêcher, former, soigner. 01 45 24 7000.
France Inter.
Voilà donc un nouveau grand projet purement et simplement enterré lors d'un conseil de défense écologique. Premier rendez-vous en mai. Le projet minier de la Montagne d'Or en Guyane est abandonné. Et aujourd'hui, troisième conseil, l'Élysée annonce qu'il laisse tomber Europa City, ce méga complexe de loisirs et de commerce au nord de Paris. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Avant de voir ce que l'État veut faire, à la place Sandy, rappelez-nous ce que devait être Europa City, un ensemble jamais vu en France depuis Disneyland.
Oui, 80 hectares, mélange de centres commerciaux et de complexes de loisirs, des boutiques, des hôtels. Et même si l'idée d'une piste de ski intérieur avait été récemment abandonnée, Europa City était devenue pour ses opposants le symbole d'un projet XXL de bétonnage des terres agricoles autour de Paris. Alors il y a quelques semaines, les promoteurs ont verdi le projet. Visiblement, ça n'a pas suffi à convaincre Sébastien.
Alors pourquoi ce projet est-il abandonné aujourd'hui ?
Il n'est plus compatible avec les ambitions vertes du gouvernement, a expliqué Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique.
C'est un projet qui répond à une conception datée de l'aménagement du territoire et d'un certain modèle de consommation qui ne répond plus aux attentes de nos concitoyens. Europa City participe au développement de centres commerciaux toujours plus grands en périphérie de nos villes. C'est un modèle qui a largement contribué à la crise du petit commerce ces dernières décennies, à la dévitalisation du cœur de nos villes et de nos bourgs, ainsi qu'à une dépendance toujours plus forte à l'automobile.
Sans compter qu'Europa City, c'était 3500 voitures de plus à l'heure de pointe sur des routes déjà saturées du nord de Paris.
Alors à la place d'Europa City, quelle est l'idée de l'État ?
Eh bien écoutez, Europa City, c'était quand même la locomotive d'un projet d'aménagement plus vaste du triangle de Gonesse près de Roissy. Pas question de mettre un terme à cette zone d'aménagement concerté de 300 hectares lancée il y a 30 ans. Une mission va plancher avec les élus locaux sur un projet alternatif plus durable. Ce soir, les opposants attendent de voir cette nouvelle copie avant de crier complètement victoire.
Alors les écologistes et les opposants au projet effectivement sont satisfaits, vous les avez entendus à 18h, merci Sandy Dauphin, en direct de l'Élysée avec Jean-André Giannichini. Même s'ils sont inquiets, ces écologistes et ces opposants au projet de ce que sera le prochain, du côté des élus locaux, c'est la déception et l'incompréhension. Voilà le maire de Gonesse, Jean-Pierre Blasi.
Je suis un maire en colère parce que cette décision du président de la République, qui est la décision du président de la République, est incompréhensible et inacceptable. Ce projet, c'est un investisseur privé, 3 milliards d'euros d'investissement privé. Est-ce que aujourd'hui, quand l'État est aussi pauvre, mais aussi autoritaire, on peut se passer d'une initiative privée qui apportait un élément de réponse par rapport à l'avenir de ce territoire? C'était un élément essentiel pour la réussite du projet du triangle dans son ensemble, autour de la gare du métro de la ligne 17. Et aujourd'hui, ce projet est sacrifié. Il affaiblit les possibilités de développement de notre territoire. C'est ça, évidemment, qui est un reniement de l'État par rapport à ses promesses et qui remonte aux émeutes de Villiers-le-Bel.
Le maire de Gonesse, Jean-Pierre Blasi, joint par Laetitia Oeveline de France Bleu Paris, Europa City devait voir le jour en 2027 et créer 10 000 emplois, sans compter la construction.
On croyait que la clause du grand-peur pourrait apaiser les tensions.
Et éviter la journée noire du 5 décembre, Jean-Paul Delevoye balaie de nouveau tout ça dans les colonnes du Parisien, comme il l'a fait ici même au téléphone sonne mardi. Pas question de réserver le futur régime de retraite seulement aux nouveaux entrants sur le marché du travail. Bonsoir Yaël Gauze.
Bonsoir Sébastien.
Ce n'est pas exactement ce qu'on avait compris dans la bouche d'Edouard Philippe.
Et non, et ce n'est pas la première fois qu'il y a de la friture sur la ligne entre les deux. Début avril, souvenez-vous, il avait même failli rendre son tablier de haut-commissaire pour s'opposer à un recul de l'âge légal de départ à la retraite. Cette fois, c'est sur le rythme de la réforme et des transitions qu'elle implique que ça se crispe. Réserver la réforme uniquement aux nouveaux entrants, cette fameuse clause du grand-père, c'est comme créer un 43e régime, dit dans le Parisien Jean-Paul Delevoye. C'est aussi le risque, il le disait au téléphone sonne mardi soir, de créer une incompréhension, une coupure générationnelle.
Si nous ne réembarquons pas la confiance des jeunes qui aujourd'hui disent à quoi ça sert de cotiser, demain ils auront la même attitude pour l'assurance maladie, ils auront la même attitude pour l'assurance chômage. Et c'est la fin de ce qui fait la force de la nation française.
Sauf que cette fameuse clause du grand-père, c'est Emmanuel Macron qui l'a remise sur la table il y a 10 jours en signe d'apaisement vis-à-vis des cheminots ou des agents EDF. Delevoye n'exprime qu'une préférence personnelle. Première prise de distance ce matin, signée Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche.
Il faut garder les pistes de transition sur la table. Précisément parce que nous discutons avec les organisations syndicales. Si l'on veut pouvoir aller au bout de cette réforme, eh bien, il faut laisser les pistes pour la discussion.
Mais le ton se durcit encore, Sébastien. À l'issue du Conseil des ministres, Delevoye n'exprime pas la ligne du gouvernement, tranche la porte-parole, Sibeth Ndiaye.
Il y a une seule ligne, elle est portée par le Premier ministre de toute évidence. C'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement et qui, à ce titre, met en œuvre la politique qui lui est demandée par le Président de la République.
Voilà, c'est dit, c'est clair. Il est donc urgent de laisser toutes les options ouvertes. Transition plus rapide d'un côté, Delevoye, plus lente de l'autre, Matignon. Surtout ne pas braquer les syndicats avant d'avoir passé le test du 5 décembre. Un exécutif déterminé à ne pas se presser, mais pour la clarté de la réforme, il faudra repasser.
Le 5 décembre, cette grève prévue à l'appel des syndicats CGT, Force ouvrière, FSU et Solidaires. Merci Yaël Gauze. La politique encore avec cet entretien d'Emmanuel Macron à l'hebdomadaire The Economist où il demande à l'Europe de se réveiller face à l'attitude solo des États-Unis vis-à-vis des Kurdes et au comportement de la Turquie qui fait partie de l'Alliance Atlantique. On est en train de vivre la mort cérébrale de l'OTAN pour le président français. À Berlin, la chancelière Angela Merkel fait savoir qu'elle ne partage pas la vision radicale du président français. Cette enquête maintenant de nos confrères du Monde au Yémen où l'on découvre qu'une partie d'une usine Total, usine de liquéfaction de gaz au bord du golfe d'Aden, arrêtée depuis le début de la guerre au printemps 2015, qu'une partie de ce site a été réquisitionnée par les Émirats Arabes Unis et transformée au Marwaman en prison.
C'est un site gazier dont le groupe énergétique français est le principal actionnaire. Une usine transformée en caserne par les Émirats Arabes Unis, un des acteurs du conflit. À l'intérieur se trouverait une prison selon l'Observatoire des armements. Tony Fortin, chargé d'études au sein de l'association.
C'est confirmé par plusieurs témoignages qu'on a recueillis de notre côté qui confirment bien l'existence d'un site de détention et au-delà. Traduit bien les compromissions effectivement qu'entre la France et les Émirats Arabes Unis.
Une relation militaire étroite, notamment dans la lutte contre le terrorisme. C'est dans ce cadre que ce site servirait de prison, mais également de lieu de torture. Des prisonniers seraient régulièrement frappés, battus à coups de poing et de bâton.
Selon un témoignage que nous avons recueilli, enfermés et torturés à Balaf. Donc ça pose là encore question.
Cette affaire fait penser à celle du cimentier Lafarge, soupçonné par la justice française d'avoir versé des commissions à des groupes terroristes pour maintenir son activité dans le nord de la Syrie.
On a là encore la volonté de maintenir nos intérêts à tout prix dans des zones au conflit, voire même d'en profiter.
Et pour faire toute la lumière sur les activités de Total dans la région, les associations réclament désormais une commission d'enquête parlementaire.
Total fait savoir dans un communiqué qu'elle n'est qu'actionnaire de la société qui exploite le site et qu'elle n'a plus de personnel expatrié depuis 2015 sur place. À propos de Lafarge en Syrie, la justice annule une partie des poursuites, celle pour complicité de crimes contre l'humanité. Le cimentier reste mis en examen pour financement du terrorisme. Des groupes dont l'organisation État islamique qui aurait été payé pour continuer à faire tourner son usine de Jalabiya. L'ONG anticorruption Sherpa va se pourvoir en cassation pour réclamer le maintien de la mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Eux sont soupçonnés d'avoir financé leur campagne électorale entre 2012 et 2015 par des moyens douteux, en l'occurrence des escroqueries au préjudice de l'État. Deux cadres du Front National, devenus RN, sont au tribunal depuis hier avec les dirigeants du micro-parti Jeanne et de la société de communication Riwal, qui fournissaient des kits de campagne que le FN imposait ensuite à ses candidats aux législatives, moyennant plus de 16 000 euros pièce. Charlotte Piret, la parole était notamment aujourd'hui au trésorier du parti d'extrême droite, Valrand Saint-Just.
Il est arrivé avec son carnet à grosse spirale et ses feuilles dactylographiées. J'aurais voulu, si possible, faire une déclaration préalable, explique-t-il. C'est alors parti pour une demi-heure de propos liminaires de la part du trésorier du parti. Son adhésion en 87. Depuis, je me suis présenté à toutes les élections, sauf à la présidentielle, car il n'y avait pas que moi. Outre les rires qu'il s'amuse à déclencher dans la salle, Valrand de Saint-Just a surtout tenu à marteler deux idées. Après l'échec des législatives de 2007, le Front National n'a plus d'argent. 7 millions d'euros de dettes. Et aucune banque ne lui concède de prêt. Pour rembourser, le siège de Saint-Cloud sera vendu, dénonçant au passage une enquête préliminaire extrêmement à charge et parfaitement orientée, un dossier ligoté dès le départ. Le cadre du parti poursuit, explique que pour les législatives de 2012, le système est donc entièrement repensé via le dispositif des kits d'affiches et tracts remboursés in fine au titre des frais de campagne. Peut-être que nous avons violé une règle de la commission des comptes de campagne, lâche Valrand de Saint-Just, mais est-ce que nous avons eu un instant l'intention de commettre une infraction pénale et de détourner de l'argent de l'État? Au contraire, l'absence d'intention. L'idée est lâchée. Or, en droit pénal, le délit d'escroquerie implique justement un caractère intentionnel.
Et le procès doit durer jusqu'à la fin du mois. Deux policiers renvoyés en correctionnel pour des violences pendant les manifestations de Gilets jaunes à Paris le 1er mai. Une gifle au visage et un pavé jeté sur des manifestants. Les deux scènes ont été filmées. Au total, l'IGPN a ouvert 212 enquêtes dans la capitale, d'après le procureur de Paris. 146 sont classées. 18 qui impliquent des policiers sont confiés à des juges d'instruction. 72 toujours en cours d'analyse. Dans combien de temps et où reviendront-ils? Question posée par les associations après l'évacuation de deux camps de migrants ce matin, porte de la Chapelle à Paris et à Saint-Denis. Plus de 1600 exilés conduits dans une quinzaine de gymnases d'Île-de-France et dans des centres d'accueil. La plupart viennent d'Afghanistan ou d'Afrique subsaharienne.
C'est parti pour la privatisation de la Française des Jeux.
Oui, la souscription pour réserver des actions avant l'entrée en bourse est lancée depuis ce matin. L'État cède 52% de la FDJ, pris pour chaque action entre 16,50 € et 19,90 €. La souscription s'arrêtera l'avant-veille de l'entrée en bourse, le 21 novembre. Et Cyril Gégère, buraliste dans le 15e à Paris, y va les yeux fermés. Il projette d'acheter une centaine d'actions.
Paradoxalement, je pense que le placement Française des Jeux n'est pas un jeu de hasard, c'est quelque chose d'assez prudent. Au pire, on tombera pas très bas, au mieux, on montera pas très haut. Et les avantages d'entrer en bourse permettent justement de limiter encore un peu le risque. Le buraliste a exactement les mêmes avantages financiers que le particulier, c'est-à-dire une action offerte pour 10 actions achetées et de mémoire 2% de décote sur le prix de mise sur le marché. Plus la priorité de servir pour le marché des particuliers en tant que buraliste. L'avantage pour moi, c'est de pouvoir acheter des parts dans une entreprise que je pense connaître, et c'est un côté assez rassurant parce que je ne suis pas d'un naturel à spéculer en bourse. Donc voilà, entrer dans l'actionnariat d'une entreprise avec laquelle je travaille, dont je connais les valeurs, la sécurité, puisque son marché a quand même été protégé par l'État pendant presque 20 ans, ça fait que globalement, je me sens assez confiant en prenant ce type d'action.
Un buraliste du quartier Beaugrenelle à Paris, au micro de Fanny Oyer. L'opération pourrait rapporter près de 2 milliards d'euros à l'État. Les stations de ski prennent les devants face au changement climatique. Elles appellent à la mobilisation générale pour préserver les montagnes. Elles veulent un plan d'action pour notamment mutualiser le financement de solutions concrètes. Domaine skiable de France, qui regroupe la quasi-totalité des stations de l'Hexagone, rappelle les prévisions du GIEC. Les températures vont grimper de plus de 6 degrés d'ici la fin du siècle. Une menace qui pèse sur 120 000 emplois.
Il est 19h presque 14. Sébastien, l'Iran a repris l'enrichissement d'uranium.
Dans son usine souterraine de Fordo, à 180 km au sud de Téhéran, nouveau signe de sa volonté de respecter de moins en moins ses engagements internationaux concernant son programme nucléaire. L'Iran, accusé aussi de vouloir étouffer la révolte en Irak, encore au moins 4 morts aujourd'hui à Bagdad, celle qui secoue le Liban également, sans gouvernement depuis la démission de Saad Hariri. L'Iran et ses réseaux d'influence qui font l'objet d'une vaste étude du très respecté Institut international d'études stratégiques de Londres. Bonsoir Christian Chénaud.
Bonsoir.
Et que vous avez lu, rapport qui montre que le pays des Mollahs est toujours aussi puissant malgré les pressions internationales.
Oui, les Iraniens sont devenus les champions de la guerre asymétrique. La République islamique a mis en place une stratégie d'effet maximum pour un coût minimum, explique le rapport. Une stratégie qui passe par des alliés locaux comme le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen ou encore les milices chiites en Irak. Autant d'acteurs non étatiques derrière lesquels l'Iran peut se dissimuler et téléguider des opérations de déstabilisation. Les modes opératoires qui permettent à Téhéran d'agir au-delà de ses frontières sont très variés. Attaques de missiles ou de drones, opérations contre les soldats américains en Irak, perturbation du trafic maritime dans le golfe Persique ou encore cyberattaque contre Israël et les pays du Golfe. Ces différents types d'actions sont exécutées par la force Al-Quds, unité des gardiens de la révolution pour les opérations extérieures. Elles sont très efficaces selon le rapport de l'Institut international de recherche stratégique de Londres qui estime que plus l'Iran sera sous pression américaine, eh bien plus il utilisera son pouvoir de nuisance au Moyen-Orient.
Christian Chéneau, merci. Du nouveau maintenant du côté de nos ancêtres. On a tous appris jusqu'à récemment qu'on descendait de Lucie, l'Australopithèque découverte en Afrique. Elle avait un peu plus de 3 millions d'années. Récemment, d'autres fossiles ont laissé penser qu'on a su se mettre debout et marcher vers 7 millions d'années. Eh bien, on vient de trouver encore mieux un ancêtre qui non seulement savait marcher, mais qui savait aussi grimper aux arbres. Bonsoir Sophie Becherel.
Bonsoir.
Il s'appelle Danuvius Guggenmosi. Il vient d'être découvert en Bavière et il est âgé, lui, de plus de 11 millions d'années.
Oui, à cette époque-là, 11,62 millions d'années. Exactement, précisément. Ouais. L'Europe était plus chaude qu'aujourd'hui, on est au Miocène et la végétation tropicale favorise la présence d'une faune abondante, diversifiée, dont plusieurs espèces d'hominidés. Parmi elles, ce singe Danuvius, son torse est large, sa colonne vertébrale et ses bras sont longs. Quant à sa posture, les restes fossiles découverts, un bout d'orteil, un cubitus, un fémur, un tibia, une rotule des vertèbres appartenant au total à 4 individus, ces restes donc ont permis de décrire un singe qui grimpe aux arbres, mais qui marche aussi. Écoutez Guillaume Davert, paléo-anthropologue et maître de conférence à l'université de Poitiers.
Là, ce que ça permet de montrer, c'est que clairement, on a un grand singe qui n'était pas bipède terrestre, mais bipède arboricole. Quand vous commencez à avoir une certaine stature, parce que là on a un individu qui faisait entre 17 et 30 kilos, une assez grande taille pour un primate, la stratégie, si on veut se déplacer dans des contextes compliqués, comme un couvert forestier, la stratégie c'est de se redresser et de se maintenir grâce à des branches qui sont situées en surplomb, et de se déplacer en bipédie.
Donc jusqu'ici, on datait cette bipédie de 7 millions d'années et on la situait en Afrique. On disait que c'était la transformation d'un paysage de forêt en savane qui aurait conduit les australopithèques et autres hominines à se redresser. Danuvius rebat les cartes. D'accord, il ne marche pas encore sur le sol, mais sur des branches. L'absence d'arbres ou un terrain escarpé n'y sont pour rien. Voilà qui conduit à penser plusieurs formes de bipédie en plusieurs endroits. Et comme les grands singes ont disparu d'Europe, il y a 8 millions d'années, eh bien Danuvius n'est pas notre ancêtre marcheur. Celui-là, les paléontologues le cherchent toujours.
Sophie Becherel reviendrait nous dire quand on l'aura trouvé, Danuvius Guggenmosi. Le retour de Benjamin Mendy en équipe de France de football à un an qu'il n'était pas passé à Clairefontaine. Didier Deschamps rappelle aussi Olivier Giroud, Léo Dubois et Nabil Fekir pour les matchs de qualification à l'Euro contre la Moldavie et l'Albanie. Kylian Mbappé et N'Golo Kanté, remis de blessure, sont aussi dans la liste. Le point, enfin, sur la transat entre le Havre et le Brésil, avec toujours en tête chez les Imoca le duo d'Alain-Eliès, devant Clarisse Kremer et Armel Lecléache, puis Escoffier et Lunven et les favoris Bayou Prat, quatrième. Bonsoir Fabrice Rigobert.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et à tous.
Vous êtes à Salvador de Bahia, Fabrice. 11 jours de mer et ils sont 3 ou 4 à se battre pour la deuxième place.
Oui, et on a beau disposer du bateau le plus rapide de la flotte des monocoques de 18 mètres, navire semi-volant équipé de ses fameux foils, ses ailes sur les côtés qui permettent de s'élever au-dessus de l'eau. Lorsqu'Éole est en vacances, les foils ne servent à rien et on imagine sans mal l'état d'énervement de Jérémy Bayou et Christopher Pratt lorsqu'ils se sont retrouvés collés à la mer au-dessus de l'équateur, là où les masses d'air chaud convergent et génèrent ces zones de calme où la mer est d'huile, où les voiles claquent désespérément, privées d'air, et l'on imagine aussi sans mal la rage lorsqu'ils se sont aperçus que tous leurs petits camarades contournaient le phénomène en passant plus à l'est. Même Clarisse Kremer, coéquipière novice d'Armel Lecléache, s'est émue de cette situation.
Bah oui, on est trop désolés pour eux parce que c'est vraiment pas drôle ce qui leur arrive, c'est vraiment pas de chance quoi. Enfin, même si c'est en bateau, ça peut arriver, mais en fait, le pot-au-nord, moi je connaissais pas, c'était la première fois que je passais le pot-au-nord, mais en fait tu regardes des fichiers de satellite, tu regardes des fichiers de nuages, et en fait à l'instant où ça arrive, déjà il y a tout qui a changé, c'est un peu nul de perdre entre guillemets comme ça.
Arrivé au nord de l'équateur avec 150 km d'avance, Jérémy Bayou et Christopher Pratt repartent avec 300 km de retard à la lutte pour tenter de reprendre la deuxième place. Un rebondissement cruel après un sans faute depuis le départ, à un an du Vendée Globe. Une aubaine et un coup de maître pour Charlie Dalin et Yann Eliès sur leur bateau mis à l'eau en août dernier seulement.
Et qui arriveront dans la nuit de samedi à dimanche, c'est ça Fabrice chez vous?
À peu près. Oui, tout à fait, samedi à dimanche,
Sous le soleil peut-être. Merci Fabrice Rigobert, en direct de Salvador de Bahia au Brésil avec Eric Audra. Les trois trimarans de 15 mètres qui sont un peu plus rapides devraient, eux, arriver la nuit prochaine au Brésil.
Merci beaucoup Sébastien Paour et à demain bien sûr. Le